Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Nous, en tant que soignants, on puise dans nos ressources, quoi. Constamment. Perdre notre santé à soigner les gens. Et on a besoin de pouvoir souffler. On a des directions et des ministères qui ne l'entendent pas. On veut faire du chiffre. Et maintenant, pour faire du chiffre, ben, après avoir taillé dans le matériel, taillé dans les consommables, hein, les prix des compresses, le prix, ben, ce qui coûte le plus cher à l'hôpital, ben, c'est forcément les salariés. Et donc, on taille là-dedans maintenant. Demain, on ne sait pas comment on va soigner, quoi. On va devenir des techniciens du soin et non plus des soignants. Ces grosses fermes-là, la ferme des 1000 vaches, l'hôpital, ça va devenir ça, quoi. On va faire de l'abattage. On va faire de la production à la chaîne et ça me fait peur, quoi. Le problème des urgences, c'est un goulot d'étranglement. On n'a pas de lit derrière. On accumule les entrées dans les couloirs et dans la salle d'attente. Sur toutes les urgences et dans toute la France. On veut faire notre travail tout simplement correctement. Je vais être fière de ce que je fais, je vais pouvoir me regarder en face quand je rentre chez moi le matin, que j'ai fait ma nuit de boulot, je vais pouvoir dire que j'ai fait mon travail correctement. Et ça, on nous en offre de moins en moins la possibilité. On va perdre quelque chose et on ne se plaindra de ça que quand on l'aura définitivement perdu. Je crois que les gens se diront « Mais c'était quoi l'hôpital avant ?»« Ah ouais, ça existait ça ?»« Non, c'était bien. » »« Ouais, mais c'était quoi ?»
Alors faudra-t-il qu'on perde ce qui reste de nos services publics pour enfin nous souvenir qu'on en a besoin ? Ça fait pourtant des décennies que des Français à moitié apathiques se laissent dépouiller des conquêtes sociales jadis gagnées de hautes luttes par nos anciens, quand soudain survient cette catastrophe sanitaire, fille de cette mondialisation capitaliste qu'on nous promettait pourtant heureuse. Et des gens se rappellent subitement que finalement, notre système de santé mériterait peut-être qu'on le défende un peu, tout comme l'ensemble de nos services publics, d'ailleurs volontairement sabotés depuis des décennies par tous les gouvernements successifs, qui se prétendent socialistes ou pas, mais tous au service du capital. Objectif ? Casser, brader, marchandiser tous nos services publics, retraite, éducation, école, et donc notre système de santé et nos hôpitaux. Tout ça pour que quelques riches se fassent du fric au détriment de tout le monde. Et d'ailleurs, pourquoi les capitalistes se gêneraient-ils puisqu'on les laisse faire ? Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour la suite de cette série Hôpital, malade, cancer du capitalisme. Deuxième épisode, Urgence aux urgences avec Anita, infirmière urgentiste, membre du syndicat Sud Solidaire Santé Sociaux, mais qui s'exprime ici surtout en tant qu'être humain qui veut encore faire société et qui avec ses collègues lutte depuis des années contre la casse de notre hôpital et du reste. Et après cette heure passée avec Anita, tu te diras peut-être qu'on a bien de la chance d'encore avoir de vaillants soignants comme elle, des gens qui donnent généreusement de leur personne pour sauver nos vies quand elles sont en danger, et tout ça pour un salaire de merde. Cette conversation date de 2019, en un temps où la plupart des gens se foutaient complètement des cris d'alarme des salariés de nos hôpitaux publics. Mais en ce printemps 2020, faudrait-il remercier le Covid-19 pour la subite prise de conscience qu'il permet chez certains, qui se souviennent soudain que l'hôpital public ou ce qu'il en reste, bah en fait, c'est vachement précieux. Il était temps car à l'instar de toute la société, l'hôpital est moribond. Bonjour Anita.
Bonjour.
Urgence aux urgences. On en reparle aujourd'hui avec Anita, infirmière aux urgences, par vocation et engagement humaniste.
Il est bien malade l'hôpital, et de plus en plus, on ne sait même pas s'il va survivre à ce cancer, c'est surtout ça. Pour l'instant, le problème de l'hôpital, c'est que maintenant, Les patients ne sont plus des patients, c'est des clients. On a un service public maintenant qui doit rapporter. Et moi, ce n'est pas ma conviction du service public et encore moins de l'hôpital public, quoi. Je suis rentrée dans la fonction publique par choix. J'avais pas du tout envie de faire du marchandage de la santé. Et pour moi, c'est donner de moi que de dire j'aide les gens qui sont dans le besoin. Et surtout, ma philosophie, c'est d'aider les gens qui sont malades comme si c'était quelqu'un de ma famille. Avec cette même philosophie, cette même vision. C'est-à-dire, comment moi, j'aimerais être soignée si j'étais patient. Là, je suis rentrée dans cette formation d'infirmière avec cette idée-là, cette conviction-là. J'ai choisi le service public avec cette conviction-là, alors que j'avais tout à fait la possibilité de rentrer dans le privé et de me dire je vais me faire de la thune et puis basta, quoi. Ce qui est très dur pour moi, c'est qu'il y a l'aspect financier qui intervient de plus en plus à l'hôpital et maintenant il faut faire du chiffre. Et pour moi, on ne peut pas faire du chiffre sur le dos de la santé, sur le dos des gens, quoi. Sur des gens qui sont dans le besoin, parce que ces personnes qui viennent, ils sont dans le besoin d'un point de vue pathologie, ils sont dans le besoin des fois d'un point de vue financier aussi, ils sont dans le besoin d'un point de vue, comment dire, spirituel aussi, quelque part, parce qu'ils n'ont plus personne à qui parler. Ils vont confier des choses aux soignants qu'ils ne confieraient surtout pas des fois même à leurs proches pour ne pas les faire souffrir. Et ils savent qu'ils vont avoir une écoute. Enfin, ils espèrent avoir une écoute. Et malheureusement, on fait en sorte aujourd'hui que cette écoute, ben, qui ne rapporte rien à l'hôpital, on l'enlève. On l'enlève des soins. Ça me fait mal. Quelque part, ça me fait très mal.
Envie de lecture, j'ai assez de trois couvertures. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif et vous assure que j'ai trop bien trop de quatre oreillers. De mille et une manières, mesdames les infirmières, vraiment pour me satisfaire, vous ne savez qu'inventer. Pourtant, même si j'exagère, serait-ce trop vous demander comme joie supplémentaire de ne pas trop insister. Je n'ai pas envie de lecture, j'ai assez de trois couvertures. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif et vous assure que j'ai trop bien trop de six oreillers.
La réalité de l'hôpital d'aujourd'hui et du quotidien des soignants n'a hélas rien à voir avec cette chanson débile de Luis Mariano qui nous dépeint ici des infirmières d'image d'Épinal, à la fois nonnes, bonnes, et un peu conne, du moins dans cette chanson. Or, pour faire ce boulot-là, faut quand même en avoir un peu dans le citron et être doté de nerfs d'acier. D'autant plus qu'il y a urgence aux urgences. Et pour en parler, on va donc partir du parcours d'Anita, infirmière urgentiste. Alors infirmière, c'est combien d'années d'études, Anita ?
3 ans et demi d'études. 3 ans et demi d'études, mais revue sur 3 ans, parce que notre diplôme ne correspond qu'à Bac plus 2, hein, quand même, c'est un peu difficile. Mais c'est surtout de la formation tout le temps encore. Hein. C'est pas parce qu'on a appris pendant 3 ans d'études qu'on est infirmier. Et ça s'apprend sur le terrain, sur tout le métier. Ça s'apprend au contact des gens, ça s'apprend au contact des autres professionnels. J'ai vu des aides-soignants qui en savaient beaucoup plus que l'infirmier, hein, des fois, selon leur expérience dans les services et tout. En termes d'études, on apprend tout le temps, toujours, et heureusement qu'on apprend encore. C'est ce qui fait qu'on peut tenir et voilà quoi. Moi, j'ai commencé à Marseille. Je faisais de l'endoscopie bronchique. Des fibroscopies, c'est des caméras qu'on met, on va les voir. Les poumons, tout ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis après, j'étais pourtant assez peinard, hein, je vais dire. Je faisais du 8-16, je travaillais jamais le week-end. Mais bon, dans ma volonté de soigner les gens et puis dans ma volonté de continuer un petit peu ma formation, j'ai décidé d'aller en réa. J'ai fait un an de réa polyvalente sur Marseille. Puis après, je suis arrivée sur Tours en 2011 et j'ai fait de la réa neurochirurgicale. Et là, j'ai commencé vraiment à travailler que de nuit. autant sur Marseille, je pouvais faire du 12 heures en alternance jour-nuit. J'avais la volonté de travailler seulement la nuit parce que je trouvais que l'ambiance était bien meilleure et, comme je le dis, plus favorable aux soins tels que moi je l'entends dans ma philosophie propre.
Est-ce que, au cours de ces 10 années de parcours, dans divers services, tu as vu l'hôpital se décomposer devant toi? Enfin, est-ce qu'il y a 10 ans, c'était moins pire? Au niveau matériel, conditions de travail
Voilà, c'est clair. Moi, je suis sortie de l'hôpital, j'ai été titularisée tout de suite dans la fonction publique. C'est-à-dire, je suis rentrée stagiaire. Je n'avais même pas encore mon diplôme que l'hôpital m'embauchait. Maintenant, pour rentrer à l'hôpital, qu'importe la fonction, vous êtes contractuel pendant des années. Alors, être contractuel, c'est avoir un CDD pendant 2-3 mois, des fois même 1 mois, dans le meilleur des cas 6. Vous galérez comme ça quelques années avant d'espérer à une hypothétique stagiarisation avec une titularisation au bout. Rien que ça, d'un point de vue confort de vie, pour les gens qui veulent travailler à l'hôpital, c'est une dégradation, mais innommable, quoi.
C'est-à-dire qu'on attend à côté du téléphone qu'on vous siffle, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que là, on en revient à la corvéabilité, hein, quelque part. Il est bien plus simple de demander de revenir à un agent contractuel que demander à un agent titulaire qui, lui, aura la possibilité de vous dire non sans risquer derrière de se voir licencié ou que son contrat ne soit pas reconduit, hein, tout simplement.
Vous avez beaucoup de contractuels syndiqués? Non, en fait, je connais déjà la réponse. Évidemment, vous avez tous deviné que quand on est précaire, la direction voit peut-être d'un œil plutôt mauvais le fait de grenouiller dans des trucs syndicaux.
Oui, on a même plutôt tendance, quand on est à accompagner un service qui est dans la demande ou voire sur un mouvement de grève, de dire aux contractuels restez calme parce que c'est plus les titulaires de bouger parce que eux craignent moins, parce que malheureusement je pense qu'au fur et à mesure des années, cette position-là va être un petit peu plus difficile à tenir aussi. Mais on essaie de les protéger parce qu'on sait pertinemment que derrière, ce seront les premiers à payer si jamais ils l'ouvrent un petit peu plus, quoi, tout simplement. Hein, c'est juste ça, quoi.
Tu referais ce choix de boulot aujourd'hui? Il y a 10 ans, t'as décidé de rentrer à l'hôpital public. Et on l'a bien compris, par conviction, et il y a des gens qui deviennent prêtres ou autre chose, on a bien compris qu'il y a une histoire de sacerdoce quand même, d'avoir envie de faire un travail utile. J'entendais à la radio, d'ailleurs, il y a quelques années, ils avaient fait un sondage où les gens, ce qu'ils exprimaient, avant la revendication salariale, il y avait surtout faire un travail qui ait du sens. Toi, je pense que c'est ce qui a guidé ton parcours vers l'hôpital. Est-ce que ce choix que t'as fait donc en 2009, tu le referais en 2019?
Je sais pas. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas. Avec la connaissance de ce qui s'y passe maintenant, je pense qu'il y a d'autres moyens d'aider les gens que par le soin. Donc peut-être que je ferai ce choix-là d'aider autrement. Après, j'ai eu moi une période où franchement, je me suis même posé la question de quitter l'hôpital. Hein. Donc j'ai eu une période où je me suis dit, je vais aller faire du libéral, quitte à trimer, autant trimer pour moi et pas pour un management qui m'agresse, qui me maltraite et dont j'ai pas la reconnaissance, hein, quelque part, hein, parce qu'il y a aussi ça. Hein. C'est aujourd'hui, ce manque de reconnaissance, de dire que on veut faire notre travail tout simplement correctement. Je vais être fière de ce que je fais, je vais pouvoir me regarder en face quand je rentre chez moi le matin, que j'ai fait ma nuit de boulot, je vais pouvoir dire j'ai fait mon travail correctement. Et ça, on nous en offre de moins en moins la possibilité. J'ai pas envie, et je pense que bon nombre de mes collègues pensent la même chose que moi, on n'a pas envie de perdre notre santé à soigner les gens. Ça va devenir de plus en plus difficile. Et notre direction a cette petite phrase qui me fait toujours rire. Quand ils veulent recruter du personnel, ils ont de plus en plus de mal à en recruter, hein, notamment en termes d'infirmiers, d'aides-soignants. Est-ce que le vivier est vide? Donc le vivier, c'est quand on l'analyse, hein, c'est quand même un enclos où on met des poissons d'élevage et tout, et voilà. Ben là, il n'y a plus personne à l'élevage, c'est-à-dire que maintenant, on est en train de dégoûter les gens avant même qu'ils rentrent dans la profession. Les étudiants, on est en train de les dégoûter avant même d'entrer dans la profession.
Ça fait bien longtemps qu'on entend dire qu'à l'hôpital public, les salaires sont tellement minables et les conditions de travail tellement épouvantables que les gens ne veulent plus y travailler et qu'il y aurait même une hémorragie de soignants qui quitteraient le public après quelques années pour aller bosser dans le privé.
Je ne sais pas s'il y a une hémorragie du public vers le privé. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont tentés d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein, tout simplement. Hein. Après, je ne suis pas sûre que la qualité des conditions de travail, que ce soit dans le privé ou dans le public, que ça soit meilleur dans le privé, j'en suis pas sûre. Peut-être payer un petit peu plus cher. Ça sera en fonction des bénéfices que redistribueront les actionnaires des cliniques privées, je sais pas. En attendant, je pense que les conditions de travail, pour en discuter avec certains collègues, sont à peu près identiques, voire même peut-être plus encore délétères psychologiquement dans le privé, parce que on nous impose des horaires quand même en 12 heures, on nous impose des rythmes qui sont encore plus difficiles en termes de ratio avec des patients, et puis là, il y a quand même une politique de la marchandise, de la santé, qui est encore plus présente, quoi.
Et puis évidemment, a fortiori, vous parliez du management dans l'hôpital public, hein, l'hôpital traité comme une entreprise, on imagine bien que dans le privé, c'est évidemment pas mieux. Notre hôpital public est en train de crever du cancer du capitalisme, et comme partout à l'hôpital, il y a urgence aux urgences. On vous le redit aujourd'hui avec Anita, une infirmière urgentiste parmi d'autres. L'occasion de réaliser que si l'hôpital public parvient encore à plus ou moins bien dysfonctionner, c'est parce qu'il y a des tas de gens qui le tiennent à bout de bras, notre hôpital, par conviction et par engagement, et certainement pas grâce au salaire dérisoire qu'on y arrache dans des conditions d'exploitation qui empirent de jour en jour. Tu as 10 ans de parcours dans l'hôpital et au bout de 10 ans, un mirobolant salaire de...
Entre 1009 et 2000 euros, ça dépend combien je travaille de week-end finalement. Moi je travaille de nuit, en 10 heures, je travaille de 21h jusqu'à 7h du matin. Mais finalement, on ne gagne pas forcément tellement plus cher. On ne fait pas la nuit juste pour le salaire. Hein. Faut arrêter. On gagne 1,50€ de plus par heure de nuit travaillée. Hein, ce qui... Et encore, pas de 21h à 7h. Parce que la nuit commence à 21h, elle va jusqu'à 6h du matin. L'heure de 6h à 7h n'est pas considérée en travail de nuit. Moi, la nuit, c'est un choix. Parce que je trouve qu'on est plus disponible, ce qui correspond à ma philosophie aussi, plus disponible pour les patients, parce qu'on a moins de pression de la part d'un encadrement qui n'est pas là, moins de médecins, moins de monde finalement, ce qui fait qu'on est un peu plus disponible. Et on a beaucoup moins de tâches administratives, parce que faut savoir quand même qu'une infirmière, c'est pas que du soin. Maintenant, l'infirmière, elle fait du soin, elle fait de la technique, elle fait de l'administratif, c'est-à-dire qu'elle va gérer des commandes, elle va répondre au téléphone, elle fait du secrétariat, elle va... Voilà, l'infirmière, c'est vraiment être polyvalent. Hein. Donc, c'est faire des bons pour réparer du matériel, c'est faire des commandes de pharmacie, c'est faire des commandes de matériel, c'est renseigner les gens, c'est... Il n'y a pas que cette barrière soin, et la nuit, c'est un peu plus facile de rester dans le soin, vraiment, d'être vraiment auprès des gens, plus que dans la journée.
Et ton emploi du temps, c'est toujours celui-là, 21h, 7h du matin ?
21h, 7h du matin, avec des week-ends de 3 nuits à suivre. Hein, donc, ce qui fait que le lundi matin, on est quand même bien fatigué.
Et vous êtes combien ? Et pour gérer quoi ? Tout le monde va aux urgences, parfois pour n'importe quoi.
Si je te parle de la structure des urgences de Tours, et on s'est battu pour augmenter le nombre de personnel, surtout la nuit, on va avoir un accueil déjà. Donc un accueil avec une secrétaire, un agent administratif, un agent de sécurité, deux infirmières d'orientation et d'accueil, et un poste pour lequel on s'est battu suite à des décès qui sont survenus aux urgences de Tours, pour lesquels le service a fait grève, une aide-soignante aussi d'orientation et d'accueil, qui va être là pour aider les patients à se déshabiller, pour les installer, pour après le tri des infirmières. Finalement, ce tri est fait en fonction de l'urgence de la personne qui se présente. Donc après, on va avoir un service d'accueil, ce qu'on appelle debout, qui a été créé il y a 4-5 ans maintenant, où on accueille un petit peu les patients, on va dire, les moins graves. Donc là, il va y avoir aussi une infirmière, une aide-soignante. La nuit, l'avantage, c'est qu'on fonctionne beaucoup par binôme, c'est-à-dire que sur chaque secteur, on va avoir une infirmière, une aide-soignante. Donc il y a ce secteur de ce qu'on appelle le circuit court, les urgences vraiment très... c'est la bobologie, ce que les médias représentent sous le terme de bobologie. Et après on va avoir des secteurs de médecine. Donc là on a trois secteurs de médecine, un qui est plus spécifique à la traumatologie, un autre pour la médecine, et puis un pour les patients qui nécessitent d'une surveillance un peu plus rapprochée. Et enfin on a le déchocage aussi. Le déchoquage, c'est les urgences. C'est vraiment, c'est les accidents de la voie publique, c'est les patients qui viennent parce que leur risque vital est engagé. Et on va donner les premiers soins à ces patients avant de les réorienter après évaluation vers des services où, plus graves, c'est-à-dire des réanimations, des services de soins continus, ou vers des services un peu plus légers. Auquel cas, ils vont rester dans un secteur de médecine d'urgence avant de leur trouver un lit. Et enfin, nous avons le service d'hébergement, une infirmière, une aide-soignante pour environ 9 patients. Pour les autres secteurs, on est à peu près à 10 patients pour chaque secteur de médecine. Sauf pour les médecines un peu plus rapprochées, on en a un petit peu moins. Et pour le déchoquage, on devrait avoir que 3 patients. Je dis bien on devrait, mais je vais y revenir après. Et donc à l'hébergement, c'est un service où on va accueillir les gens parce que sur l'hôpital, on n'a pas de lit. Pour les accueillir et pour les installer correctement. Ça, c'était le gros problème des urgences. Et c'est un petit peu partout, parce que vu qu'on ferme des lits dans l'hôpital, ben, les patients, on va les récupérer sur le service d'hébergement qui est saturé. Des patients qui devraient être dans un lit, dans un service spécifique, se retrouvent dans un service où on va avoir toutes les pathologies possibles, avec tous les soins possibles. Ça va du soin palliatif de la gastro-entérologie à de l'orthopédie, de la cardio, tout. Vraiment, c'est assez particulier, parce qu'on n'a pas de lit pour ces gens sur l'hôpital. Et pour revenir au déchoquage, je dis bien, en théorie, nous avons une infirmière pour 3 patients. C'est-à-dire que là, sur Tours, on a quand même 7 box dans cette salle de déchoquage. Normalement, on devrait accueillir 3 patients, mais selon si on est en hôpital sous tension ou pas, on peut avoir 2 lits débloqués supplémentaires et donc se retrouver à 5 patients. Je rappelle, les patients graves, hein, qui nécessitent des soins d'urgence pour lesquels le pronostic vital peut être engagé, avec une seule infirmière et une seule aide-soignante. Donc on fait help à nos collègues, hein, parce que dans ces moments-là, on a besoin de bras, on a besoin d'aide, parce que dans la panique, des fois, on peut oublier des choses, donc c'est un peu compliqué. Et puis, ça serait dommage quand même de faire porter aux patients le manque de personnel des urgences. Donc on se débrouille toujours pour pouvoir venir aider les collègues. Et donc cette salle de déchoquage, ça nous arrive aussi de l'utiliser pour décharger la salle d'attente des urgences. Donc on a des patients des fois un peu moins graves, mais qui n'ont rien à faire dans cette salle de déchoquage, parce que tout simplement les brancards s'entassent dans cette salle d'attente, qui est normalement supposée être faite pour accueillir 5 brancards. J'ai vu jusqu'à 15 brancards dedans. J'ai vu des brancards qui s'alignaient dans les couloirs aussi, selon les nuits. Il fallait attendre jusqu'à 5-6 heures du matin pour dire qu'il n'y avait presque plus personne à gérer. On récupère la nuit tous les patients qui se sont accumulés au fur et à mesure de la journée, donc des gens qui ont attendu pendant 10-12 heures quelquefois, ne serait-ce que d'être vus par un médecin. Donc voilà, c'est ça les urgences.
Nous sommes foutus, pourtant prévenus. Regardez-le, l'hôpital tue. Voyez-le bien, nous sommes foutus.
Dans le pire des cas, quand ça fonctionne vraiment pas, ça veut dire que quelqu'un peut attendre combien d'heures dans un couloir avant qu'on s'occupe de lui ? Ou qu'on se rende compte même qu'il existe ou qu'il a un truc grave ?
Ça peut aller jusqu'à, comme je le disais, entre des fois 10 à 12 heures. Des gens qui arrivent dans l'après-midi et qui vont être vus vers 3-4 heures du matin. Et puis il y a ceux qu'on ne verra même pas parce qu'ils en auront eu tellement marre qu'ils seront repartis, pour certains. Et puis, comme on a pu voir, ça fait malheureusement un an, où des gens qui vont malheureusement décéder sans avoir vu un médecin. Hein, donc,
c'est assez... Ça arrive ça à Tours, des gens qui décèdent dans le couloir des urgences?
C'est arrivé l'année dernière avec 2 décès de personnes âgées. Des personnes qui malheureusement, on savait qu'on n'allait certainement pas sauver, mais qui au moins... On aurait pu, si on avait pu les prendre en charge correctement, c'est-à-dire que si on avait eu le personnel suffisant à cette période-là, les prendre en charge correctement pour leur fin de vie. Au moins ça. C'est ce qui a déclenché de toute façon la grève des urgences de Tours au printemps l'année dernière. Il y a eu 2 décès en un mois d'intervalle. Nous, ce qu'on a gagné sur cette grève, c'est d'avoir 7 aides-soignantes d'orientation d'accueil dans cette salle d'attente pour répondre aux besoins des personnes et pouvoir surveiller aussi un petit peu ces personnes et nous dire il y a quelqu'un qui s'aggrave, là, faut le prendre tout de suite en charge. Pour la nuit aussi, d'avoir ne serait-ce qu'un brancardier. Parce que la nuit, on n'avait pas de brancardage sur les urgences. Donc, c'était les infirmiers et aides-soignants des secteurs, des différents secteurs, qui faisaient le brancardage, c'est-à-dire monter les patients dans les services quand on leur avait trouvé une chambre, les emmener à l'imagerie pour des examens de radio, de scanner, ou ne serait-ce que porter les bilans sanguins. Donc, voilà, c'est-à-dire que pendant le temps où l'aide-soignant ou l'infirmier était parti du service, dire qu'il y avait plus personne dans le secteur. Donc, s'il y avait quelqu'un qui s'aggravait, potentiellement, ça pouvait être important. Donc, fallait toujours dire aux collègues d'à côté, tu surveilles un petit peu. Parce que là, on laisse 10 personnes, potentiellement, sans surveillance directe, quoi. Donc, cette grève, elle nous a au moins apporté ça. Pour moi, c'est encore pas suffisant, parce que ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on ait des lits pour pouvoir placer ces patients. Parce que l'attente aux urgences, c'est la conséquence, tout simplement, de l'absence de lits derrière. Ou de lits vraiment disponibles dans la nuit ou dans la journée derrière. C'est-à-dire qu'on a fermé tellement de lits parce qu'on veut pas garder les gens à l'hôpital. Donc, on privilégie l'ambulatoire, certes, mais on arrive avec une population qui est de plus en plus âgée, polypathologique, et qui a besoin de soins et qui a besoin d'être aidée et écoutée, souvent. Donc, on n'a plus ces lits derrière pour les hospitaliser décemment. Donc, ces gens et des personnes âgées peuvent rester sur des brancards, parce que tant qu'on est aux urgences de la salle d'attente jusqu'aux portes de l'hébergement, ce qu'on appelle l'hébergement, ce sont des brancards, ce ne sont pas des lits. Hein. Donc, rester 10-12 heures sur un brancard, voire même une nuit, voire même plusieurs nuits. Des fois, j'ai vu aussi des patients qu'on pouvait retrouver le lendemain sur un brancard. C'est relativement inconfortable. Je défie quiconque de rester allongé sur un brancard toute une nuit. C'est juste impensable. En termes de confort, c'est pas possible.
L'hôpital de demain sera-t-il sans médecin? L'hôpital innovant sera-t-il sans patient? Exclusivement pour malades bien portants, au cœur du Grand Paris, un hôpital sans lit.
Le problème des urgences, comme je disais, c'est un goulot d'étranglement. On n'a pas de lit derrière, on ne peut pas vider les secteurs d'urgence, donc on accumule les entrées dans les couloirs et dans la salle d'attente. C'est tout simplement ça. Et c'est partout, sur toutes les urgences, c'est pas qu'à Tours, c'est dans toute la France.
Et ça voudrait dire aussi qu'il ne faudrait pas qu'il se produise une catastrophe ou un truc grave, enfin un AZF de Toulouse ou un truc comme ça. Enfin, déjà que dans le quotidien, l'outil, il est émoussé en cas de super urgence.
On a les plans blancs, hein, on a les exercices pour essayer de... Mais ça reste des exercices. Et puis, le gros problème, c'est qu'on a des ministères qui veulent absolument faire de l'ambulatoire, ne plus avoir ces personnes à l'hôpital, qui restent à l'hôpital. Si bien qu'on a supprimé les lits, mais avant de mettre en place vraiment ces nouvelles techniques d'hospitalisation ou de soins. Donc on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que ça ne peut pas marcher. Forcément, il y a un moment où il y a un blocage. Je crains un jour qu'il y ait vraiment un gros problème, que ce soit AZF ou même, sans vouloir être oiseau de mauvaise augure, on est quand même dans une période où...
Il peut se passer plein de choses.
Je pense qu'on l'a vu sur Paris, assez récemment, quand même, de façon dramatique. Je ne sais même pas comment on pourra prendre en charge les patients en termes d'espace, parce qu'en termes de bras, en tant que soignant, je pense que de même les soignants reviendront. Sur un gros cas d'urgence, de même les soignants reviennent, parce qu'on a cette culture où on ne va pas laisser non seulement des personnes en danger de mort, mais on ne va pas aussi laisser nos collègues dans la difficulté et devant des choses qui sont vraiment très très difficiles émotionnellement et physiquement à gérer. Sur la nuit, aux urgences, pour l'instant, au maximum, il nous reste 3-4 patients, je dirais. C'est vraiment dans les nuits de très très grande affluence. Et ça, c'est assez saisonnier aussi. On a ce caractère saisonnier. Hein. La période hivernale est un peu plus difficile à passer. Là, maintenant, on a des périodes estivales qui sont un peu plus difficiles à passer parce que les périodes de canicule, ça cumule aussi. Mais voilà, c'est assez saisonnier. Le maximum que j'ai pu voir, ouais, c'est 3-4 brancards. Et encore, ce sont des patients qui sont plus là pour des problèmes, je vais dire, d'ordre social. Il faut rappeler aussi que les urgences, c'est la porte ouverte hein, dans la nuit. Hein, c'est la lumière qui est là. Hein. C'est, je ne vais pas dire le phare parce que ça fait vraiment très poétique, mais c'est quand même un peu ça où la personne qui ne sait pas où aller peut venir aux urgences. Elle sait qu'elle va être accueillie et qu'à la limite, si elle veut se reposer, elle va pouvoir se reposer. Donc, il y a aussi ce contexte-là des urgences.
Des gens à la rue.
Des gens à la rue qui, malheureusement, souvent sont alcoolisés aussi et qu'on va installer dans la salle d'attente. Et au moins, ils seront au chaud et on ne va pas les virer parce que justement... On est là, quoi. C'est aussi la philosophie des soignants. C'est un peu difficile quand même de dire à quelqu'un de retourner dans la rue l'hiver par moins 10 degrés, alors qu'on sait qu'il est à la rue, qu'il n'a pas d'abri pour se protéger, ou que le SAMU social n'a pas le moyen de l'héberger, ou quoi que ce soit. J'ai vu des fois des médecins, parce que on a des médecins qui s'inquiètent de ça aussi. Hein. Il n'y a pas que les paramédicaux, hein, aux urgences. Hein. Tous les médecins aussi sont dans cette même philosophie de dire que un patient qui est en situation sociale très très difficile, on essaie de lui trouver une place, on ne va pas le remettre dans la rue, même si, d'un point de vue physique, il n'a plus besoin de soins. C'est important. Vraiment, la saison la plus pénible, c'est l'hiver, quand même. Parce qu'il y a toutes les pathologies virales. Hein. On a quand même des épisodes de grippe, on a des gros épisodes de gastro-entérologie, des choses comme ça, avec des patients qui... quand ils sont un petit peu âgés ou quoi, qui sont déjà dénutris, donc ça peut être relativement assez grave. L'été, si, on va avoir, bien sûr, on va avoir des patients... un peu plus alcoolisé parce que ouais, on fait la fête, on profite, c'est certes, mais bon, je dirais sur toute l'année, de toute façon, on a aussi des patients, ce pourcentage de patients est présent, mais après, en termes d'accidents de voie publique ou quoi que ce soit, il y en a tout au long de l'année. L'été, maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des problèmes de déshydratation avec la canicule, ce qui arrive de plus en plus fréquemment.
Qu'est-ce qu'il faudrait comme moyen humain et matériel pour que, à ton sens, le service des urgences soit digne de ce nom, fonctionnel, opérationnel ?
Premièrement, des lits, déjà. Des lits sur des services de médecine classique, sur des services de chirurgie, hein, sur tous les services, sur tout l'hôpital. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on arrête de fermer des lits. Et au contraire, il faudrait qu'on en ouvre beaucoup. Surtout, on en a fermé plus de 90 l'année dernière. On doit en fermer, c'est très précis, on doit en fermer 133 pour des raisons de restructuration, puisque l'hôpital de Tours est en restructuration. C'est-à-dire que pour financer le nouvel hôpital Trousseau qui fait rêver tant nos directions, il faut quand même supprimer ces lits-là et diminuer l'offre de soins aux usagers, ce qui est grave quand même. Donc il nous faut des lits. Et en termes de moyens humains, avoir assez de personnes, je ne veux pas dire dans un secteur il faut plus de personnes ou quoi que ce soit, parce que comme je le disais, nous là sur la nuit on est un binôme aide-soignant infirmier pour à peu près 10 patients. Ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on ait des collègues qui soient là quand on a besoin de se former, parce que on est tellement à effectif, à flux tendu, c'est qu'on n'a plus accès aux formations. Et comme je le dis, le métier d'infirmier ou le métier de soignant, on a besoin de se former régulièrement aux nouvelles techniques, aux spécialités, parce que voilà, selon notre parcours, il y a des spécialités qu'on a vues et d'autres qu'on a moins vues ou certaines qu'on n'a pas vues, donc au moins les connaître pour pouvoir bien prendre en charge les patients, pour pouvoir se former, pour pouvoir se reposer aussi. Parce que le boulot de soignant, et je parle pour les urgences, c'est usant, pour les autres services aussi, mais se reposer parce que actuellement, on a du mal à avoir des jours de repos, on a du mal à poser nos vacances, et on rappelle les collègues pour venir remplacer, quand il y a de l'absentéisme de dernière minute, on rappelle les collègues sur leurs jours de congé pour venir remplacer. Alors des fois en les culpabilisant, ce qui n'est pas bien du tout, c'est-à-dire, voilà, vous laissez vos collègues dans la mouise, là, si vous venez pas, vous... Donc, on va ne plus se reposer chez nous, on peut plus se reposer chez nous puisqu'on est rappelé à domicile, on peut plus profiter de nos familles non plus, donc psychologiquement et physiquement, il y a plus ce repos, on n'arrive plus à décrocher, hein, c'est assez quand même difficile et on arrive dans un cercle vicieux où la fatigue étant là, on est à même de plus s'arrêter, plus faire notre travail correctement parce que...
Ce que j'allais dire, c'est comme ça que les conneries arrivent. Quand quelqu'un meurt dans un service hospitalier, aux urgences ou ailleurs, on l'entend dans les médias, évidemment c'est toujours la faute du vilain médecin ou de la vilaine infirmière ou de l'interne qui savait pas ou du...
Quand on est fatigué, on a quand même l'esprit qui est quand même beaucoup moins clair, on est beaucoup moins réactif, on peut passer à côté de choses, côté desquelles on ne passerait pas si on était vraiment en pleine possession de nos aptitudes physiques, tout simplement. Et puis surtout, il y a l'agressivité aussi. Quand on est fatigué, on est un peu plus agressif. Alors déjà qu'aux urgences, on se retrouve souvent avec une catégorie de patients qui est là dans le stress, parce que qui dit urgence, c'est on ne sait pas ce qui se passe. Inquiétude parce que vie potentiellement en danger ou quoi que ce soit. Donc c'est assez difficile. Certains patients peuvent être agressifs parce que forcément ils sont inquiets, ce qui est tout à fait logique. Donc faut qu'on arrive à prendre sur nous de pouvoir rassurer ces personnes. Les prendre en soin, les rassurer, et on ne nous donne plus la possibilité de le faire. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils sont inquiets, et en plus de ça, on va les faire patienter pendant 2-3 heures, sans avoir vu un médecin, en ayant vu simplement l'infirmier d'accueil, qui va faire un tri, premier tri finalement, en fonction de l'urgence. Mais en attendant, vous êtes là sur un brancard à attendre et vous savez pas ce que vous avez potentiellement mal ou vous êtes potentiellement pas bien, tout simplement, et vous savez pas ce que vous avez. Donc forcément, ça engendre une agressivité, une tension qui est vraiment là, qui est palpable, hein, certaines nuits où c'est vraiment difficile. Hein. Et il y a les patients, mais il y a aussi les familles. Les accompagnants aussi peuvent être dans l'agressivité parce que justement l'inquiétude, parce que on est aussi dans une société où on veut être pris en charge tout de suite. Ce qui est humain quelque part, parce que quand on vient aux urgences, on s'inquiète vraiment et on voit pas que finalement la personne à côté de moi finalement elle est peut-être plus grave. Et puis parce qu'on n'a pas, en termes d'usagers, on n'a pas forcément la connaissance non plus, hein, ce qui est tout à fait logique. Et nous, on a beau essayer de répéter, de dire que si on ne vous prend pas en charge tout de suite, c'est que vous n'êtes pas si grave que ça. Ne vous inquiétez pas, si vous étiez grave dans la minute, il faudrait presque plus s'inquiéter parce que justement, on vous prend en charge tout de suite et que c'est parce que là, c'est vraiment très très grave pour vous et que votre risque vital peut être engagé. Mais cette agressivité-là, elle est tellement palpable que nous, en tant que soignants, on puise dans nos ressources, quoi. Constamment. Et on a besoin de pouvoir souffler. Et ça, pour l'instant, on a des directions et des ministères des tutelles qui ne l'entendent pas. On veut faire du chiffre. Et maintenant, pour faire du chiffre, après avoir taillé dans le matériel, après avoir taillé dans les consommables, hein, les prix des compresses, ce qui coûte le plus cher à l'hôpital, c'est forcément les salariés. Et donc, on taille là-dedans maintenant. Donc, et ce qui va être de plus en plus difficile à entendre parce que demain, on ne sait pas comment on va soigner, quoi.
L'hôpital de demain sera-t-il sans médecin? L'hôpital innovant sera-t-il sans patient? Exclusivement pour malades bien portants, au cœur du Grand Paris, un hôpital sans lit.
Des moyens matériels et humains constamment tronqués par un management qui ne vise qu'au profit et plus au service public. C'est l'une des nombreuses métastases qui rongent notre hôpital public. Or, vous le savez, avant les médicaments, les premiers soins, ce sont surtout l'écoute et la parole. Et l'écoute et la parole, ça prend du temps. Comme les directions suppriment des postes, ce temps avec les patients... Ah, excusez-moi, je me suis trompé, parce que l'hôpital public, on ne dit plus patient, hein, mais client, puisqu'on n'est plus les usagers d'un service public, mais des vaches à lait pour celles qu'on du lait. Ce temps, donc, avec les patients, les soignants ne l'ont plus, puisqu'ils ne sont plus là tant pour soigner, mais pour faire du chiffre, pour un hôpital rentable. Et pour faire du chiffre, comme ils disent, parmi tous les outils de sabotage et d'exploitation des directions, il y a cet odieux emploi de la culpabilisation des salariés. Car si les soignants de l'hôpital ont une conscience, grâce à laquelle l'hôpital tient encore d'ailleurs, de l'éthique, le management n'en a aucune. Et c'est sans vergogne que les gestionnaires culpabilisent les salariés pour les faire bosser jusqu'à plus soif, et parfois même gratuitement. Exploiter les convictions humanistes et le sens moral de soignants culpabilisés pour faire du chiffre, cynisme du capitalisme appliqué à l'hosto.
C'est assez compliqué dans le sens où il y a une culture quand même, faut revenir un petit peu au temps un petit peu ancestraux des hôpitaux, enfin des dispensaires qu'on pouvait avoir où c'était des bonnes sœurs hein, quand même, hein, qui avant les premières infirmières hein, c'était des sœurs, hein, donc avec cette corvéabilité qui était là. Et il y a toujours cette idée, moi je le sens, hein, c'est j'ai pour avoir vécu certaines réflexions, toujours cette idée que ben, l'infirmière elle est corvéable à souhait. Non, c'est pas le cas. Il y a eu ce fameux slogan ni bonne ni nonne pour les soignants et c'est malheureusement c'est encore d'actualité. C'est-à-dire que il manque quelqu'un dans le service, on va rappeler les collègues et les collègues vont revenir parce que ben, vous comprenez, on peut pas soigner les patients correctement, vos collègues sont dans la panade et tout, ça le service fonctionne pas. Donc les collègues reviennent. Et on fait notre malheur. Finalement, c'est malheureux à dire parce qu'on fait notre malheur en faisant ça. Parce que tant que le service tourne, tant qu'il n'y a pas de grain de sable dans l'engrenage, nos directions, nos tutelles ne mettront pas les moyens nécessaires derrière. Donc ils sont tout à fait ravis qu'on culpabilise quand on nous rappelle et qu'on ait la bêtise presque de revenir. Et j'ai bien la bêtise, c'est dommage d'arriver à en penser ça parce que... pour nous, c'est vraiment tellement difficile de le vivre au quotidien, de dire, je laisse mes collègues dans la panade et tout. Oh, c'est pas grave si je fais une heure de plus et tout, mais il y a un moment où on puise tellement dans nos ressources qu'on est obligé de le faire. C'est pour ce projet.
Je vais poser une question bassement triviale, mais l'heure de plus que tu fais en plus, elle est payée ?
Alors, l'heure de plus, dans le meilleur des cas, elle sera à récupérer. C'est-à-dire qu'on la met en heure sup. Mais il y a certains collègues qui le font de façon tout à fait gratuite et régulièrement. Pour donner un exemple très concret là sur un service avec qui j'ai des contacts où le service pour fonctionner et c'est un service c'est le service de réa néonatologie hein, c'est quand même un service de pointe où on accueille des bébés donc ça la culpabilité elle est encore plus prégnante hein, parce que c'est des bébés là cette fois-ci qu'on prend en charge. Les collègues sont revenus pour combler l'absentéisme et tout ça. Restent des heures en plus, font des heures supplémentaires pour pouvoir aider leurs collègues qui arrivent le matin, par exemple. Les collègues de nuit vont rester un petit peu plus, les collègues du matin vont partir un petit peu plus tard pour aider les collègues d'après-midi qui prennent la suite. Et elles se retrouvent avec des centaines d'heures sup à récupérer. À l'heure actuelle, la direction n'est même pas en capacité de leur donner des heures de repos, de les faire récupérer ces heures-là. Donc, elles ont fait ces heures-là, on ne sait pas quand est-ce qu'elles pourront les récupérer. Et quand je dis c'est des centaines d'heures, donc pour parler vraiment, je vais dire chiffres, là au mois de novembre, quand les collègues nous ont alertés, là moi je reprends ma casquette un petit peu syndicale, il y avait 180 jours à donner aux collègues avant le 31 décembre. Donc sur deux mois, il fallait redonner 180 jours. C'était juste impossible. Les collègues ne savaient pas si elles allaient pouvoir récupérer, si elles allaient pouvoir être payées pour celles qui souhaitaient être payées de ces heures supplémentaires. À l'heure actuelle, elles ne le savent toujours pas. Donc elles ont des heures sup de l'année dernière qu'elles ne peuvent pas récupérer. Et pour en revenir aux urgences, nous, là, en ayant bouclé notre planning, parce qu'il faut quand même savoir que sur l'hôpital, quand on parle d'effectifs, on a des plannings qui sont bouclés à partir du 31 mars, c'est-à-dire même avant cela, parce qu'il y a les réunions avant de négociation un petit peu, il faut qu'on sache ce qu'on fait de toute notre année, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prévoie notre vie privée en fonction... donc il faut qu'on prévoie nos vacances sur toute l'année et tout ça. Donc là, actuellement, sur les urgences, sur le service des nuits des urgences, en ayant plus de possibilités de jours à prendre ou quoi que ce soit, on a encore 70 jours à poser. C'est-à-dire que 70 jours que, pour l'instant, l'encadrement ne peut pas nous donner. 70 jours de repos. C'est juste énorme. Ces 70 jours, ils vont se cumuler sur l'année d'après ou quoi que ce soit. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra les reprendre. Donc, la fatigue ne va faire que s'accumuler. On le sait déjà. C'est malheureux, on le sait déjà. La direction le sait. Mais pour l'instant, on ne fait rien. Au contraire, on nous enlève des effectifs. Ces effectifs de remplacement, comme j'ai dit, ces effectifs que moi je réclame, qui sont là pour pallier justement à l'absentéisme, pour pallier à nos demandes de formation, à nos demandes de congés. Ces effectifs-là, on les enlève.
Vous vous l'aurez bien compris, ce management absurde, cette mauvaise gestion n'est même pas rentable. Ces milliers d'heures supplémentaires à payer pourraient être ces postes qui manquent cruellement pour avoir un hôpital digne de ce nom. Mais quand on veut se débarrasser de son chien, au lieu de dire qu'il a la rage, on peut directement lui inoculer la maladie. Notre hôpital public est délibérément saboté par les pouvoirs qui se succèdent, qui se prétendent socialistes ou pas, mais tous au service de l'idéologie capitaliste. Ce que réclament Anita et ses collègues du syndicat Sud Santé Sociaux, ce sont plus de lits, plus de bras, et donc plus de temps à consacrer aux patients. Vous l'avez entendu, Anita lutte pour réclamer les moyens de faire correctement son travail au service des autres. Elle n'a même pas mentionné qu'elle souhaiterait peut-être une augmentation de salaire.
Ah, mais je vais pas non plus dire que j'aimerais pas qu'on m'augmente, hein. Je vais pas dire ça.
On a pas encore parlé, mais.
On a pas encore parlé. Ça pourrait être une des revendications, mais je pense que la revendication première, en effet, des soignants, ce sont les conditions de travail et les conditions de prise en charge des patients, parce que on est là pour nos patients, hein. On s'les attribue, hein, presque, hein. Ce sont nos patients. C'est des gens qui vont passer un petit peu dans vos vies. Il y en a certains qu'on va très vite oublier. Puis il y en a certains qu'on n'oubliera jamais. Ils sont là, ils nous ont pas choisis, nous on les a pas choisis non plus, mais finalement on se rencontre à un moment de la vie où nous on va être potentiellement en capacité de les entendre, d'entendre leur mal-être, leurs besoins, et eux vont être en possibilité aussi de formuler leur mal-être et d'avoir en échange de l'aide. C'est un moment très, très particulier. Et comme je dis, hein, malheureusement, ces moments-là, ils vont être de plus en plus minimalistes, parce que on nous offre plus la possibilité, puisqu'on va devenir des techniciens du soin et non plus des soignants. Et c'est une très grosse différence. Un ouvrier technique, hein, voilà, on travaille à la chaîne et on fait de l'abattage. Là, quand je vois les services qui vont être mis en place, services d'ambulatoire, tout ce que... Je suis passée, il n'y a pas très longtemps, à côté d'une grosse exploitation agricole et j'ai repensé à ces grosses fermes-là, la ferme des 1000 vaches. Et je me suis dit, mais l'hôpital, ça va devenir ça, quoi. On va faire de l'abattage, on va faire de la production à la chaîne et ça me fait peur, quoi.
C'est le plan génial qui va être appliqué et qui est déjà appliqué partout en France pour la santé. En gros, concernant Tours, puisqu'on enregistre cette émission à Tours, il y a deux gros hôpitaux historiquement à Tours. Il y a Bretonneau, celui qui est en ville. Et il y a aussi le gros hôpital qui est à la sortie de la bretelle d'autoroute à la périphérie de Tours, donc qui est Trousseau. En gros, pour des histoires de soi-disant rentabilité, optimisation, je sais pas quoi, ils veulent faire une espèce de ferme des 1000 vaches de la santé de Trousseau. Et fermé ici, Bretonneau, où il y a d'ailleurs un service de maternité remarquable. J'en ai toujours entendu que du bien. Qu'est-ce que ça va devenir, par exemple, ce service maternité ici, qui est à Bretonneau? Il va continuer à exister?
C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que là, l'hôpital, sur Tours, on est sur... Il y a deux sites principaux, en effet. Il ne faut pas oublier, il y a Clocheville aussi, qui est l'unité, l'hôpital pédiatrique.
C'est l'hôpital dit des enfants, voilà, à Tours. Et il me semble bien avoir fait une manifestation l'an dernier contre la fermeture de Clocheville.
C'est la fermeture de Clocheville. On va fermer Clocheville. Cet hôpital va disparaître complètement.
La ministre va nous dire, bah oui, mais c'est parce que les Français font moins d'enfants.
Bah oui, mais malheureusement, il y a encore des enfants qui sont malades. Et ces enfants-là, cette unité-là de pédiatrie, devrait être, pour l'instant, c'est encore assez flou dans la communication de notre direction, devrait soit être intégrée sur une unité à Bretonneau ou sur un bâtiment bien dédié à Trousseau. Mais pour l'instant, on n'a pas le budget, donc c'est un peu compliqué. À terme, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir deux gros sites. On va avoir Trousseau et Bretonneau. Sur Bretonneau, on va avoir tout ce qui va être la médecine, donc les unités de médecine classique et la gériatrie. On va garder pour l'instant la maternité et notre superbe Réa Néonat, qui est un bâtiment tout neuf, qui a été inauguré l'année dernière. Mais en 2026, on devrait ouvrir le nouvel hôpital Trousseau. Ce qui m'a fait assez rire, c'est que notre direction l'appelle l'hôpital de la Renaissance. Moi, je suis pas sûre qu'on renaît dans cet hôpital-là, parce que on va avoir beaucoup moins de lits. Certes, ça va être un hôpital moderne. Il va être très joli, très beau, mais avec moins d'offres de soins, moins de soignants. Ça va être beaucoup plus galère pour nous. Donc cet hôpital-là va accueillir tous les services dits de soins critiques, donc toutes les réanimations, tous les services de chirurgie et les urgences. Donc ça, c'est pour 2026. Et une autre date, grosse date, c'est 2040. 2040, Bretonneau ferme. Donc on ne sait pas s'ils vont agrandir le premier hôpital de la Renaissance qui sera donc ouvert en 2026, s'ils vont l'agrandir pour pouvoir accueillir Bretonneau à l'intérieur. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais en attendant, voilà, Bretonneau n'existera plus. Tout sera fait à Trousseau avec un grand campus hospitalo-universitaire, c'est-à-dire que la fac de médecine déménage là-bas aussi. Tout se passera là-bas en périphérie de Tours. Donc oui, l'usine des 1000 vaches, ça sera la grosse usine là-bas, quoi. C'est un peu ça. Et avec, pour l'instant, le but de passer en ambulatoire, on veut un taux d'ambulatoire à près de 56%. C'est-à-dire que plus d'un patient sur deux devra être vu en ambulatoire et non plus en hospitalisation conventionnelle, comme on peut le voir encore aujourd'hui.
2040, fermeture ici, mais il y a quand même un hôpital ici. J'ai du mal à imaginer qu'ils vont le raser, donc ce sera peut-être, un hôpital à acheter. Est-ce que c'est d'avoir mauvais esprit quand même?
Ah mais oui, mais on peut avoir mauvais esprit. Hein. Je dois avouer que là, quand on sait particulièrement qu'on veut avoir un hôpital super moderne, alors que sur Bretonneau, là, il y a des services. Moi, quand je suis arrivée en 2011 sur Tours, le bâtiment de Réa Neurochir, il est tout neuf. Confort, il y a la clim, il y a tout ça. Je veux bien entendre que sur la tour Trousseau, il n'y ait pas la clim, qu'il n'y ait pas de salle de bain correcte, je dirais, avec une douche pour toutes les chambres, ça je veux bien l'entendre. Mais là, ce qui est prévu, c'est quand même de faire quasiment que des chambres particulières dans le nouveau Trousseau. Quand on sait qu'une chambre particulière va coûter bien plus cher à un patient. Donc un patient qui n'aura pas de mutuelle, je ne sais pas comment il va faire pour pouvoir se payer ce luxe imposé de la chambre individuelle. Et puis on va surtout mettre en place ce qu'on appelle un hospitel. C'est le gros truc à la mode, c'est-à-dire que maintenant, pour éviter que les gens viennent passer une nuit supplémentaire à l'hôpital, c'est-à-dire la nuit avant leur intervention, on va les mettre dans un hôtel, je dirais entre guillemets, qui sera, si ce n'est pas très loin de l'hôpital, peut-être même dans l'hôpital, parce qu'il est prévu qu'il y en ait un dans le nouveau Trousseau. Donc on va installer des patients, ça sera une nuit d'hôtel à l'hôpital, quoi. Voilà. Remboursé normalement par la Sécu, mais on n'en sait pas. C'est encore en phase d'étude, on ne sait pas trop comment ça va marcher.
Bientôt, le problème ne s'opposera plus, puisque nos gouvernants ont tous dans leur cahier des charges de détruire tout ce qui est service public, et y compris de détruire la sécurité sociale, celui qu'on a actuellement à l'Élysée, d'ailleurs. Je pense que ça fait partie de son cahier des charges. Le problème ne s'opposera plus. On va revenir à cette merveilleuse société comme aux États-Unis, où avant la carte vitale, on vous demandera votre carte bleue avant d'entrer à l'hôpital, et gare à ceux qui n'en auront pas de carte bleue.
Oui, ça va être l'apologie du chiffre, hein, de toute façon, et il va falloir payer pour se faire soigner, alors que là, jusqu'à présent, on cotisait, comme on disait, avec la Sécu, ce salaire social qui a été débaptisé pour devenir des charges patronales, hein, quand même, hein, ce salaire qui est le nôtre et qu'on nous réduit, parce que c'est pas les charges patronales qu'on réduit, hein, c'est notre salaire. Faut arrêter de penser que c'est les patrons qui souffrent, c'est nous qui allons souffrir. Et le plus difficile à essayer de vivre, c'est que les gens ne s'en aperçoivent pas. On est en train de détruire tout ce que nos anciens ont réussi à se sont battus pour. On est en train de détruire ça et on ne s'en rend même pas compte. Et on les laisse faire surtout. Donc c'est un petit peu rageant de dire qu'on va perdre quelque chose et on ne se plaindra de ça que quand on l'aura définitivement perdu. Je crois que les gens reviendront, se diront mais c'était quoi l'hôpital avant? Ah ouais, ça existait ça? Non, c'était bien. Ouais, mais c'était quoi? C'est tout.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer à la maison, le cœur gros, parce que le boulot n'a pas été correctement fait par manque de moyens, par manque de matériel, par manque de personnel, je sais pas, d'avoir perdu quelqu'un ou d'avoir mal fait le boulot et de rentrer à la maison avec un sentiment de gâchis, enfin, ou d'en avoir gros sur la patate?
Ouais, ça m'est arrivé. Ouais, ça m'est arrivé de dire le matin, je pars. Et dans ces moments-là, on a du mal à partir. On a déjà du mal à partir du service. Hein. Ça m'est arrivé plus sur mon expérience dans les services de réanimation ou de dire je peux pas, j'ai du mal à partir parce que j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose, ou j'ai vu que le patient s'aggravait pendant ma période de temps de travail et que j'avais pas les moyens de l'aider, ou parce que on n'était pas assez nombreux, parce que c'est plein de facteurs à côté qui font que un patient peut s'aggraver, hein, ça. Mais c'est vrai qu'il y a des matins où on a du mal à partir, tout simplement. Et puis quand on rentre chez soi, on revit. J'ai vu des fois des matins à essayer de dormir, de refaire ma nuit, parce que psychologiquement, je sais que il y a quelque chose, je suis pas tranquille. Est-ce que je suis pas passée à côté de quelque chose? Est-ce que j'ai vraiment tout fait? Et c'est très très difficile. Et on revit. Et dans ces moments-là, on revient même la nuit d'après avec la boule au ventre, en se disant, mais est-ce que le patient, il est bien? Est-ce qu'il a survécu? Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que j'ai fait une bêtise, finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, ça peut arriver. Ça m'est arrivé.
Si je vais mal, mais j'étais si bien sans vous. Dans les journées ensoleillées, comme je sentais tout à coup mon cœur chavirer en regardant les ombres danser et les autos circuler. Je pensais bien que j'oublierais. J'oublierai toutes mes vacances à l'hôpital, tous les endroits où je vais mal, mais quand la nuit tombera, je replierai mes bras et j'aurai jusqu'au bout quelque chose de moins que vous, mais j'aurai jusqu'au bout.
Clore cette conversation, malgré tout ce que tu viens de nous raconter pendant une heure, est-ce que ça t'arrive aussi parfois de rentrer à la maison en disant, malgré les bouts de ficelle, malgré pas de moyens, sur ce coup-là, on a plutôt assuré. Je vois que tu comprends très bien ce que je veux dire. Je suis sûr que tu vois déjà un visage ou quelqu'un, la petite dame à qui j'ai eu le temps de dire quelques mots rassurants. Est-ce qu'on rentre encore du boulot malgré tout ça avec des satisfactions de temps en temps?
Heureusement, parce que sinon on n'y reviendrait pas. Je pense que là c'est pour ça que moi j'ai fait ce métier, et quand j'arrive à pouvoir dire je l'ai fait correctement, ça peut être aussi dans des moments douloureux, hein. C'est ne serait-ce que accompagner quelqu'un dans ses derniers instants de façon correcte et avec sa famille, hein. C'est aussi ça, hein, soigner, hein. Ça va au-delà de guérir, hein. C'est ça, mais ne serait-ce que j'ai vu certains patients sortir des urgences et me faire signe de m'approcher pour me semblant de petite messe basse et me faire juste une bise, quoi, tout simplement. De dire merci de m'avoir pris en charge, merci de m'avoir écouté, mais juste merci, quoi. Et puis rien que de voir leur sourire, c'est tellement gratifiant. Heureusement, au moins cette reconnaissance-là, on l'a encore. C'est parce que c'est la seule qu'on a, on l'a plus de nos directions, donc on a au moins cette reconnaissance-là. Et c'est peut-être celle qui fait le plus plaisir, je dirais, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.
Voilà les amis, c'est ici la fin de cet échange avec Anita, infirmière urgentiste et surtout être humain qui, comme beaucoup de ses collègues, lutte encore pour faire société. Conversation qui date de 2019, en une époque où les personnels soignants étaient encore bien seuls à manifester contre la casse volontaire de nos hôpitaux. Mais le coronavirus nous aidera-t-il à nous souvenir que nous devons défendre notre système de santé publique ainsi que toutes nos autres conquêtes sociales? Mais la suite le dira. Alors en attendant, c'est bien gentil de taper sur les casseroles de 20h, et espérons surtout que nous serons bientôt nombreux dans la rue pour reconquérir ce que nos anciens ont jadis conquis pour nous. et que par bêtise ou par négligence, ce qui revient à peu près au même, nous laissons détruire pour le plus grand bénéfice de quelques riches. Alors pendant que les gangsters qui nous ont volé le pouvoir sont en train de nous préparer l'addition de cette crise économique, que tu vas payer, on pourrait peut-être nous songer à mettre bas ce système capitaliste de merde qui nous fait crever. On en reparle bientôt sur cette même antenne et sur notre site polymix-et-la-voix-off.com où vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
www.radio-g.fr